Le temps de regagner la maison et d'essuyer une demi-douzaine de questions des journalistes en rentrant les courses, Jason était claqué. Il lança un film pour Henry, sans écouter la petite voix qui lui disait que regarder autant la télé ne pouvait pas être bon pour elle, qu'il devrait faire plus d'efforts pour dialoguer avec sa fille en cette période difficile, etc. Ils avaient à manger, le chat était revenu, il n'avait pas encore été arrêté, c'était ce qu'il pouvait faire de mieux pour l'instant. Il était en train de sortir les œufs de leur boîte lorsque le téléphone sonna. Il décrocha discrètement sans vérifier qui appelait. « Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage, fiston ?» L'accent du sud de Maxwell Black fit traîner la phrase en longueur et rappela à Jason des souvenirs qu'il voulait oublier. « Tu crois que tu commandes, petit ? Tu es à moi, petit. Des pieds à la tête. Tu m'appartiens. » « J'ai fait une chute dans les escaliers. » répondit Jason avec désinvolture, en obligeant les images à retourner dans leur petite boîte, dans un coin de sa tête. Il s'imagina refermer le couvercle, introduire la clé dans la serrure, la tourner soigneusement. Max éclata de rire. Un petit rire chaleureux, celui dont il se servait sans doute lorsqu'il faisait des plaisanteries au tribunal ou qu'il était entouré d'une cour, dans les cocktails du quartier. Peut-être même l'avait-il utilisé la première fois qu'une enseignante lui avait avec hésitation parlé de Sandy. « Vous savez, monsieur, je m'inquiète de voir que Sandy semble avoir souvent des accidents. » Et Max était parti de ce petit rire charmant. « Oh, inutile de vous inquiéter pour ma fille. Ne torturez pas votre jolie tête. Ma petite fille va très bien. » Toute l'aversion de Jason pour le père de Sandra lui revint. « Bon, fiston, on dirait que nous ne sommes pas partis sur de bonnes bases hier après-midi, » dit Max. Jason ne répondit rien. Le silence se prolongea. Après encore quelques instants, Max prit sur lui de le rompre en ajoutant sur un ton léger « Alors, j'appelle pour m'excuser. » « Inutile, » lui assura Jason. « Retournez en Georgie, ça suffira. » « Écoutez, Jason, il me semble que si quelqu'un avait le droit d'en vouloir à l'autre ici, ce serait moi. Vous avez séduit ma fille unique, vous me l'avez ravie pour l'emmener dans ce nord épouvantable, et ensuite vous ne m'avez même pas invité au mariage, sans parler de la naissance de ma petite fille. Ce ne sont pas des façons de traiter la famille, fiston. » « Vous avez raison. À votre place, je ne vous adresserai plus la parole. » À nouveau ce rire chaud et sirupeux. « Heureusement pour vous, fiston, » continua Max avec ardeur, « j'ai décidé de prendre un peu de hauteur. Il s'agit de mes uniques filles et petites filles, et il serait stupide de laisser le passé nous barrer le chemin de l'avenir. Vous savez quoi ? Quand Sandra reviendra, je lui passerai le message. »« Quand ?» reprit vivement Max. « Si, vous voulez dire. » « Je veux dire quand ?» répondit Jason avec fermeté. « Votre femme est partie avec un autre, fiston ?»« C'est une théorie qui semble populaire. Vous ne la rendiez pas heureuse ?»« Je ne vous le reproche pas, notez bien. Je l'ai élevée tout seule après le décès de sa chère maman. Je sais à quel point elle peut être exigeante. Sandra est une épouse merveilleuse et une mère dévouée. J'avoue que j'ai été surpris d'apprendre qu'elle était devenue enseignante. Mais ce matin, j'ai discuté avec ce sympathique principal. » Comment s'appelle-t-il ? Phil. Phil Stewart. Il n'a pas arrêté de dire combien Sandy était formidable avec ses élèves. Somme toute, on dirait que vous vous êtes bien occupé de ma fille. Je vous remercie, fiston, vraiment. Je ne suis pas votre fiston. Très bien, Jason Jones. Jason entendit à nouveau cette inflexion, cette menace sous-entendue. Il serra le poing, refusa d'ajouter un mot. Vous ne m'appréciez pas beaucoup, n'est-ce pas, Jason ? Là encore, Jason ne répondit pas. Mais le juge semblait s'adresser à lui-même. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Nous n'avons jamais eu de vraie conversation. Vous vouliez ma fille, vous l'avez eue. Vous vouliez quitter la Georgie, vous avez pris ma fille et vous êtes partie. Il me semble que j'ai beaucoup de raisons de vous en vouloir. Si on dresse la liste de griefs que peut entretenir un père contre celui qui s'enfuit avec sa fille unique. Mais moi, qu'est-ce que je vous ai fait, fiston ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Vous avez trahi votre fille. S'entendit répondre Jason. Elle avait besoin de vous et vous l'avez trahie. Mais de quoi vous parlez au nom du ciel ? Je parle de votre femme. Je parle de votre cinglée et alcoolique de femme qui battait Sandy tous les jours sans que vous leviez le petit doigt pour l'en empêcher. Comment un père peut-il abandonner son enfant comme ça ? Comment un père peut-il la laisser torturer jour après jour sans réagir ? Il y eut un silence. Ma femme battait Sandy ? C'est ça que Sandy vous a raconté ? Jason ne répondit pas tout de suite. Le silence se prolongea. Cette fois-ci, il craqua le premier. « Oui. » « Alors, écoutez, » reprit le juge, l'air offensé. La maman de Sandy n'était pas parfaite, loin de là. Il est exact qu'elle buvait sans doute plus que de raison. J'avais des journées tellement chargées à l'époque que je laissais Missy bien trop souvent seule avec Sandra. Je ne doute pas que c'était éprouvant pour ses nerfs, qu'elle s'emportait peut-être plus vite qu'une mère ne le devrait. Mais battre, torturer... Je crois qu'on donne un peu dans le mélodrame, là, sérieusement. Votre femme n'a jamais fait de mal à Sandy. Qui aime bien, châtie bien. Je l'ai vu donner une ou deux fessées à Sandy, mais rien de plus que n'importe quel parent poussé à bout. Missy n'abusait jamais d'alcool. Bon, c'est vrai qu'elle avait un faible pour le gin. Peut-être qu'un ou deux soirs par semaine. Mais elle n'avait pas l'alcool violent. Si elle avait un peu forcé, elle allait se coucher. Elle n'aurait pas fait de mal à une mouche, encore moins à notre fille. Elle ne vous pourchassait pas dans toute la maison avec des couteaux. « Je vous demande pardon ?» demanda le juge apparemment sous le choc. Elle a fait souffrir Sandy. Elle lui a claqué des portes sur les doigts. Elle l'a forcé à boire de l'eau de Javel. Lui a fait avaler des objets ménagers pour le plaisir de la conduire à l'hôpital. Votre femme était une femme très, très malade. Le silence dura plus longtemps cette fois-ci. Lorsque le juge reprit enfin la parole, il semblait réellement confondu. C'est ce que Sandy vous a raconté. C'est ce que Sandra dit de sa propre mère. Eh bien, pas étonnant que vous soyez aussi sec avec moi. Je retire tout ce que j'ai dit. Vraiment, je comprends tout à fait votre position. Quelle histoire! Eh bien... Le juge ne semblait plus savoir quoi dire. Jason, déstabilisé, commençait à ne plus être aussi certain de son fait. Un premier frisson de malaise lui parcourut le dos. « Puis-je dire quelque chose pour ma défense ?» demanda le juge. « Je pense. » « Premièrement, je vous jure que c'est la première fois que j'entends parler d'actes aussi abominables. Il est possible, j'imagine, qu'il se soit passé entre ma pauvre femme et Sandy des choses dont je n'ai jamais eu connaissance. » Mais pour être franc, je ne crois pas que ce soit le cas. J'aime ma fille, Jason. Je l'ai toujours aimée. Mais je fais aussi partie des rares hommes qui peuvent dire qu'ils ont vraiment aimé leur femme comme des fous. J'ai rencontré Missy quand elle avait 19 ans. Et j'ai su dans la seconde que j'allais l'épouser, la faire mienne. Ce n'était pas seulement parce qu'elle était belle, même si elle l'était, ou parce qu'elle était gentille et bien élevée, même si elle l'était, mais parce qu'elle était Missy. Et que je l'aimais pour cette seule raison. Vous croyez peut-être que je radote, que tout ça n'a aucun rapport. Mais quand Sandy a eu 12 ans, j'ai bien peur que ça ait eu un rapport. Voyez-vous, Sandy est devenue jalouse de ma considération pour Missy. Peut-être des fleurs que je rapportais sans raison à la maison, ou des jolies babioles que je me plaisais à offrir à mon adorable épouse. À partir d'un certain âge, les filles entrent, consciemment ou non, en rivalité avec leur mère. Je crois que Sandy a cru le combat perdu d'avance. Elle est devenue hargneuse, hostile à sa mère. Et c'est là que sa mère est morte avant que les choses aient pu s'arranger entre elles. Ça a été très dur pour Sandy, ma gentille petite fille. Elle a changé du jour au lendemain. Elle s'est mise à faire les 400 coups, à fréquenter. Elle n'en faisait qu'à sa tête, ne voulait rien savoir. Elle s'est fait avorter, Jason. Vous le saviez, ça ? Rhee n'est pas née de sa première grossesse, ni même peut-être de sa deuxième. Je parie qu'elle ne vous l'a jamais dit, n'est-ce pas ? Je ne suis même pas censée le savoir, mais la clinique a reconnu son nom et m'a contactée. J'ai donné mon consentement. Que pouvais-je faire d'autre ? Elle n'était encore elle-même qu'une enfant, bien trop jeune et instable pour être mère. J'ai prié, Jason. J'ai prié pour ma fille comme vous n'avez pas idée, jusqu'au moment où vous l'avez fait sortir de ma vie. Le juge soupira. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'avais toujours espéré que Sandy s'assagirait en grandissant. En discutant avec le principal ce matin, j'ai cru qu'elle avait peut-être enfin grandi, qu'elle faisait preuve d'une certaine maturité. Mais maintenant que j'entends ce que vous dites, je pense que ma fille est peut-être très perturbée, Jason. D'abord, elle m'a fui, et peut-être serait-il temps d'admettre qu'elle vous a fui, vous aussi. Jason ouvrit la bouche pour protester, mais les mots refusèrent de sortir. Le doute prenait racine en lui. Que savait-il réellement de Sandy ou de sa famille? Il avait toujours pris ce qu'elle racontait pour argent comptant. D'un autre côté, quelle raison avait-il de mentir à Sandy? Des milliards. Il serait peut-être temps que nous nous rencontrions, dit Maxwell. On pourrait s'asseoir autour d'une table, parler d'homme à homme, s'expliquer. Je n'ai rien contre vous, fiston. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour ma fille et ma petite fille. Comment Missy est-elle morte? Demanda tout à coup Jason. Pardon? Votre femme, comment est-elle morte? Crise cardiaque, répondit le juge du tac au tac. Elle est tombée raide. Une vraie tragédie chez une femme si jeune, nous étions anéantis. La main de Jason se crispa sur le combiné. Où est-elle morte?
Chez nous.
Pourquoi cette question? Est-ce que c'était dans le garage, au volant de sa voiture? Bien oui, maintenant que vous le dites, j'imagine que Sandy vous a aussi raconté ça. Mais c'était une crise cardiaque, vous êtes certain? Absolument. Une épreuve terrible, terrible. Je pense que ma petite Sandy ne s'en est jamais vraiment remise. J'ai lu le rapport d'autopsie, insista Jason. Dans mon souvenir, Madame Black avait le visage rouge vif quand on l'a retrouvée. Clairement un symptôme d'intoxication au monoxyde de carbone. S'ensuivit un long silence à l'autre bout du fil, pendant 30 secondes, peut-être même une minute. Jason sentit son ventre se détendre, ses épaules se redresser. Sandy avait raison. Son père mentait très, très bien. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Monsieur Jones. » Dit enfin Max Black. Il n'avait plus l'air aussi sympathique, plutôt agacé. Un homme riche et puissant qui ne parvenait pas à ses fins. « Vraiment? Parce qu'aujourd'hui, où toutes les archives sont numérisées, il me semble que vous devriez comprendre que toute information est accessible in fine, surtout quand on sait où chercher. » Ça marche dans les deux sens, Jason. Vous vous renseignez sur moi, je me renseigne sur vous. Ne vous gênez surtout pas. Depuis quand êtes-vous à Boston? À quelle date avez-vous rencontré ma fille? Riposta Max sans s'émouvoir. Vous avez loué une voiture avec ou sans chauffeur? Vous allez fournir spontanément un échantillon d'ADN pour un test de paternité ou vous allez attendre l'ordonnance du juge aux affaires familiales? Peu importe, on est dans le Massachusetts ici, où les mariages gays sont autorisés et où l'in loco parentis a plus de poids que la biologie pour décider de la garde d'un enfant. Vous vous figurez que sous prétexte que vous connaissez un peu le latin, vous êtes plus fort que moi en droit, mon bonhomme? Je me figure que j'ai récemment écrit un article sur un grand-père qui réclamait la garde de son petit-fils parce qu'il ne voulait pas qu'il soit élevé par un couple de lesbiennes. Le tribunal a statué que l'enfant devait rester avec les seuls parents qu'il avait jamais connus, même si elles n'étaient pas ses mères biologiques. Passionnant. Eh bien, j'ai une autre expression latine pour vous. Vous l'avez peut-être entendu en faisant vos petites recherches pour votre article, tout ça. Ex parte. Jason se figea au milieu de la cuisine et son regard se dirigea vers la fenêtre. Il vit l'agent nu s'engager dans l'allée, se diriger vers sa porte. Ça veut dire « en présence du seul demandeur », continua Max d'une voix mielleuse avec un petit rire rentré. Par exemple, un grand-père peut déposer une requête ex parte auprès du juge aux affaires familiales et le juge peut émettre une ordonnance ex parte accordant un droit de visite, sans même que vous soyez au courant qu'une telle audience s'est tenue. Après tout, vous êtes le principal suspect dans une affaire de disparition. Rester avec le principal suspect dans la disparition de sa mère ne saurait être dans l'intérêt de l'enfant, si? Espèce de... jura Jason. La sonnette retentit. Autant répondre, dit Max. Je vous vois, fiston, et tout le pays avec moi. Ce fut alors que Jason aperçut Max, posté près de l'attroupement des camionnettes blanches de la presse, le portable collé à l'oreille. L'homme lui fit un signe de la main, plus chic dans un nouveau costume bleu qui mettait en valeur ses cheveux argentés. Ce coup de téléphone, la raison pour laquelle Max avait si volontiers bavardé, immobilisant Jason, le tout sous couvert de faire des excuses, la sonnette de Jason retentit à nouveau. « J'y vais, papa, » dit lui. Ce n'avait pas d'importance. Rien de tout cela n'avait d'importance. Jason était mort une fois, près de 25 ans plus tôt. Mais aujourd'hui, c'était pire. Aujourd'hui, c'était tout son monde qui s'écroulait. Rhee, sur la pointe des pieds, défit le premier verrou, puis le deuxième. Elle ouvrit la porte en grand pour laisser apparaître l'agent en tenue. Celui-ci était porteur d'une feuille de papier blanc repliée. Son regard passa par-dessus la tête de Rhee et trouva Jason sur le seuil de la cuisine, le téléphone encore à l'oreille. « Jason F. Jones ?» Jason finit par reposer le combiné. En mode pilotage automatique, il s'avança, tendit la main. « Remis en main propre, » dit le fonctionnaire. Puis, sa mission accomplie, il fit brusquement volte-face et redescendit le perron. Pendant que sur le trottoir d'en face, les photographes mitraillaient à tout va. Jason déplia la feuille. Il lut l'ordonnance du tribunal exigeant que le lendemain matin, à 11h, il conduise sa fille sur l'aire de jeu la plus proche, où elle bénéficierait d'une heure de visite de son grand-père, le dénommé Maxwell M. Black. Une audience contradictoire concernant les droits de visite se tiendrait dans 4 semaines. En attendant, Maxwell Black se voyait accorder 1 heure par jour avec sa petite fille, Clarissa Jane Jones. Ainsi en avait décidé le tribunal. Tous les jours, sans exception, Max et Rhee ensemble. Max qui verrait Rhee, qui lui parlerait, qui la toucherait. Et Jason n'aurait pas le droit de surveiller. Il serait contraint de laisser sa fille seule avec un homme qui avait contribué à la maltraitance de sa propre fille unique. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» lui demanda Rhee avec anxiété. « Tu as gagné quelque chose ? Qu'est-ce qu'il t'a apporté, le monsieur ?» Jason se ressaisit, replia le papier et le glissa dans sa poche arrière. « Ce n'est rien, » assura-t-il à sa fille. « Rien du tout. Et si on jouait à Candyland ?» Rhee gagna 3 fois de suite. Elle n'arrêtait pas de tirer la carte Princesse Frostine en moins de 4 coups, signe infaillible qu'elle trichait. Jason était trop absent pour la réprimander et Rhee en devint encore plus maussade. Elle cherchait des limites. Le monde obéissait à des règles et c'était ces règles qui en faisaient un lieu sûr. Jason renonça au jeu de société et leur prépara des sandwichs grillés au fromage et un velouté à la tomate pour le déjeuner. Assise au bar, Rhee fit la tête, trempa son sandwich dans la soupe. Lui la faisait surtout tourner dans son assiette en regardant les croûtons prendre une teinte rouge sang. L'ordonnance du tribunal était toujours pliée et rangée dans sa poche arrière. Comme si la réduire à un simple petit bout de papier devait diminuer le pouvoir qu'elle détenait sur sa vie et sur celle de sa fille. Il comprenait enfin pourquoi Sandra avait quitté sa maison et son père avec une telle facilité et pourquoi pas une seule fois elle n'avait eu la tentation d'appeler pendant ces 5 dernières années. Maxwell Black voulait rafler la mise. Et en tant que juge, il savait comment détourner la loi pour obtenir exactement ce qu'il voulait. L'ordure. « Je veux chercher maman !» annonça Rhee. « Quoi ?» Elle arrêta de tremper son sandwich au fromage le temps de lui lancer un regard buté. « Tu as dit que des policiers et des amis allaient se rassembler au collège pour aider à retrouver maman, alors je veux aller au collège, je veux retrouver maman. » Jason regarda sa fille sans mot dire. Il se demanda quel guide de conseil aux parents pourrait avoir un chapitre sur le sujet. La sonnette retentit. Jason se leva immédiatement pour aller ouvrir. Le commandant Didi Warren et le capitaine Miller se tenaient devant sa porte. D'instinct, Jason chercha du regard d'autres agents derrière eux. Ne voyant que les 2 enquêteurs, il en conclut qu'on ne venait pas l'arrêter. Il ouvrit un peu plus largement la porte. « Vous avez retrouvé ma femme ? » demanda-t-il. « Vous avez commencé à la chercher ?» répondit Didi d'une voix égale. Il la préférait quand même à Max. Il fit entrer les 2 enquêteurs et expliqua à Rhee qu'elle pouvait choisir un 2e film parce que papa avait besoin d'un moment pour discuter avec les gentils policiers. En réponse, Rhee lui lança un regard mauvais et cria « Je vais retrouver maman et tu pourras pas m'en empêcher ». Elle entra comme un ouragan dans le salon et alluma la télé pour mettre un DVD, maintenant qu'elle avait eu le dernier mot. « La journée a été longue », expliqua Jason à Didi et Miller. « Il n'est que 11h30 ?» fit remarquer Didi. « Oh chouette, j'ai encore 10 belles heures devant moi ». Il invita les policiers à passer dans la cuisine pendant que sa fille s'installait pour regarder ses dinosaures préférés dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. « Oh, café, soupe à la tomate froide » proposa-t-il sans enthousiasme. Didier et Miller déclinèrent la proposition et prirent chacun un siège au bar. Il s'adossa au réfrigérateur, bras croisés sur la poitrine. « Marie est pleurée, père homicide, Marie est pleurée, putain. »« Que vous est-il arrivé ?» demanda Didier. Je me suis pris un mur. Des 2 côtés du visage en même temps. Je l'ai percuté 2 fois. Elle le regarda d'un air sceptique. Il campa sur ses positions. Qu'allait-il faire ? Le jeter en prison parce qu'il était salement amoché ? Je veux qu'il soit consigné que ce n'est pas nous qui avons fait ça, dit Miller. Qui ça, nous ? La police de Boston. Nous ne vous avons même pas encore convoqué au commissariat. Alors c'est clair que, quel que soit le mur qui vous a frappé au visage, ce n'était pas nous. Je crois que vos murs préfèrent le taser, donc non, ce n'était pas vous. Cette riposte ne lui attira pas les bonnes grâces de Miller, mais de toute façon, Jason était pratiquement sûr que le capitaine le considérait déjà comme coupable. Quand est-ce arrivé ? Insista Didi, manifestement la plus maligne des deux. Nous vous avons vu après l'agression d'Hastings, en aucun cas il n'a pu faire autant de dégâts. Peut-être que mes bleus mettent du temps à apparaître. Elle le regarda à nouveau d'un air sceptique. Il campa sur ses positions. Il pouvait continuer ce tango toute la journée, à bien y réfléchir, elle aussi, sans doute. Dans ce sens, ils étaient faits l'un pour l'autre, voués à se faire chier mutuellement. Sandy lui manquait. Il avait envie de demander à sa femme si elle attendait vraiment un enfant de lui. De lui dire qu'il ferait tout ce qu'elle voudrait si seulement elle acceptait de lui donner une deuxième chance. De lui dire qu'il était désolé, surtout pour février. Il avait beaucoup de regrets à avoir pour février. « Sandra savait ce que vous faisiez, » déclara Didi. Il soupira, mordit à l'hameçon. « Et qu'est-ce que je faisais ?»« Vous savez, sur l'ordinateur. » Jason ne se laissa pas impressionner. Il l'avait déjà deviné grâce à Ethan Hastings. Ils allaient devoir frapper plus fort s'ils voulaient attirer son attention. « Je suis journaliste. Évidemment que je travaille sur l'ordinateur. » « D'accord, je vais m'expliquer autrement. Sandy a découvert ce que vous faisiez sur Internet. » « Légèrement plus intéressant. »« Qu'est-ce qu'Ethan vous a dit exactement sur mes activités sur Internet ?»« Oh, ce n'était pas Ethan. »« Pardon ?»« Non, ce n'est pas avec Ethan que nous avons passé la matinée. »« Nous lui avons parlé hier soir et le gamin nous a appris 2-3 trucs intéressants. » Par exemple, le fait qu'il a présenté Sandra à son oncle, qui est ingénieur certifié en criminalistique informatique pour la police d'État du Massachusetts. Nous avons examiné les mouvements sur votre compte, ajouta Miller. Donc nous savons qu'il ne s'agissait pas de jeu d'argent. Ça nous laisse la pornographie enfantine et ou la cyberpornographie. Et si vous vous rendiez un grand service en dissipant tout malentendu, si vous coopériez, nous pourrions peut-être vous aider. Je n'ai rien fait de mal. Répondit Jason par automatisme en réfléchissant à toute allure, en essayant de prendre la mesure de la situation. Sandra s'était intéressée à ses activités nocturnes. Depuis quand ? Qu'avait-elle compris ? Pas tout, sinon elle n'aurait pas eu besoin d'Ethan Hastings. Mais un professionnel de l'investigation numérique, merde ! Un expert de la police d'État qui avait accès à un vrai laboratoire informatique, nous avons votre ordinateur. Reprit Didi, fidèle à sa technique de harcèlement. Calé comme vous l'êtes en informatique, vous savez que nous pouvons tout retrouver. Et quand je dis tout, c'est tout. Il hocha vaguement la tête, parce qu'elle avait raison. Avec les outils d'analyse qui existaient aujourd'hui, il aurait dû rouler sur le disque dur avec sa voiture, broyer les composants et jeter les bouts de plastique dans une bonne chaudière avant de faire sauter toute la chaufferie, pour plus de sécurité. Il avait envie de foncer au Boston Daily. De s'emparer de son ancien ordinateur et désespéré de faire tourner ses propres outils de diagnostic. Qu'avait découvert Sandra au juste ? Combien de barrières de sécurité avait-elle réussi à lever ? Les forums de discussion ? Les transactions financières ? La page MySpace ? Ou peut-être les photos ? Mon Dieu, les photos ! Il ne pouvait pas retourner au Boston Daily. Il ne pourrait plus jamais prendre le risque de toucher à cet ordinateur. C'était fini. Plié. Ce qu'il avait de mieux à faire, c'était prendre la boîte dans le grenier et passer au Canada avec Ree. Didi et Miller le regardaient. Il se força à pousser un grand soupir et à prendre l'air profondément déçu. « Je regrette que ma femme ne m'en ait pas parlé », leur dit-il. Didi lui lança un regard, manifestement elle ne le croyait pas. « Je suis sérieux », insista-t-il, jouant les offensés. « Si seulement elle m'avait parlé de ses craintes, de ses inquiétudes, je n'aurais pas demandé mieux que de tout lui expliquer ». « Comment ça, tout ?» demanda Miller. Jason poussa un autre soupir. « D'accord, d'accord. J'ai un avatar. »« Un quoi ?» demanda Miller avec un regard vers sa collègue en se caressant la moustache. « Un avatar. Une identité virtuelle sur un site qui s'appelle Second Life. »« Oh, arrêtez de vous foutre de notre gueule !» grommela Didi. « Hé, les enfants de 4 ans ont des oreilles !» la sermonna Jason en montrant le salon où Ree était sans doute encore en plein coma télévisuel. « Vous n'avez pas d'avatar. confirma Didi d'un air menaçant. Mais si, j'en ai un. Je me suis connectée à ce site pour un article que j'étais en train d'écrire. Je voulais juste me faire une idée. Mais je sais pas, c'est sympa. Beaucoup plus élaboré que je ne l'aurais imaginé. Convivial. Un univers avec ses propres règles, ses coutumes, tout. Par exemple, la première fois qu'on se connecte, on commence avec un corps standard et une tenue standard. Alors, comme j'ignorais tout ça, j'ai commencé à aller dans des bars et dans des magasins pour voir. Et j'ai remarqué tout de suite qu'aucune femme ne voulait parler avec moi. Parce que je portais encore la tenue standard. J'étais étiquetée « petit nouveau », comme l'élève qui change de lycée en cours d'année. Personne n'apprécie le nouveau, vous voyez. Il faut gagner ses galons. Didi lui lança à nouveau ce regard sceptique, mais Miller semblait intéressé. Vous restez debout toute la nuit pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre dans une société virtuelle. Jason Penaud mit ses mains dans ses poches. Bon, ce n'est pas le genre de choses qu'un adulte a envie d'avouer, surtout à sa femme. Qu'est-ce que vous êtes sur Second Life ? Demanda Miller. Beau, riche et célèbre ? Ou alors une blonde à forte poitrine qui craque pour les motards ? En fait, je suis écrivain. Je travaille sur un roman d'aventure qui pourrait bien être autobiographique. Un homme mystérieux, vous voyez, ça plaît aux femmes. Ça ressemble à ce que vous êtes en réalité ? Dit Didi avec ironie. Pas la peine de se brancher sur Internet pour ça. C'est exactement pour cette raison que je n'ai rien dit à Sandra. Vous voulez rire ? Elle travaille toute la journée et ensuite elle s'occupe de lui tous les soirs pendant que je couvre l'actualité locale pour le journal. La dernière chose qu'elle ait envie d'apprendre, c'est que son mari passe son temps sur un jeu d'ordinateur quand il rentre le soir. Croyez-moi, ce n'est pas le genre de conversation entre époux qui se passera bien. « Donc vous avez ressenti le besoin de le cacher, » conclut Didi. « Jason esquiva. Je n'en ai pas parlé. »« Ah oui, c'était tellement secret que vous effaciez l'historique de navigation chaque fois que vous alliez sur Internet. » Merde, Ethan et l'informaticien avaient bien fait l'éducation de Sandra. Réflexe de journaliste, répondit Jason sans sourciller. Il se fit la réflexion qu'il mentait avec la même facilité que Maxwell Black. Était-ce pour cette raison que Sandra l'avait épousé, parce qu'il lui rappelait son père ? Pardon ? J'efface l'historique pour protéger mes sources, expliqua Jason. C'est un truc appris à l'école de journalisme, le cours sur la déontologie à l'ère numérique. En théorie, je ne suis censée travailler que sur mon portable, mais l'ordinateur familial est plus confortable. Donc j'ai tendance à faire mes recherches sur Internet ici et ensuite à transférer les informations. Sauf qu'évidemment, mon ordinateur n'est pas protégé contre les fouilles et les saisies. Conclut-il avec un regard appuyé. Donc je vide l'historique, c'est une procédure de routine. Vous mentez. L'air renfrogné, Didi paraissait à deux doigts de frapper quelqu'un. Sans doute lui. Il haussa les épaules comme pour signifier qu'il ne pouvait rien de plus pour elle. « Quelle école de journalisme ? » demanda-t-elle tout à coup. « Quelle école ? » ?»« Où avez-vous suivi ce cours de déontologie ?» Dans sa bouche, déontologie avait l'air d'un gros mot. « Oh, c'était il y a des années, sur Internet. »« Donnez-moi le nom, » insista-t-elle. « Même les universités en ligne ont des archives. »« Je retrouverai ça. » Mais elle secouait la tête. « Il n'y a pas eu de cours. » Ou peut-être qu'il y en a eu un, mais que vous ne vous appeliez pas Jason Jones à ce moment-là, hein ? D'après ce que nous savons, ce nom de Jason ne remonte qu'à environ 5 ans. Comment vous appeliez-vous avant ? Smith ? Brown ? Et dites-moi, quand vous prenez un nouveau nom, le chat change de nom aussi ? Je ne sais pas, répondit Jason. Il n'a que 3 ans. Vous nous mentez, monsieur Jones, constata Didi qui s'était levé de son tabouret et s'approchait de lui, comme si la proximité physique allait lui faire perdre son sang-froid, lui faire cracher des réponses qu'il n'avait pas. Avatar mon cul, la seule deuxième vie que vous ayez, c'est ici et maintenant. Vous fuyez quelque chose, quelqu'un, et vous vous êtes donné beaucoup de mal pour brouiller les pistes, hein. Mais Sandra a commencé à s'en douter. Quelque chose lui a mis la puce à l'oreille. Alors elle s'est adressée à Ethan et Ethan s'est adressé au pro. D'un seul coup, voilà que la police d'État s'intéressait de près à vos activités en ligne. À quel point vous avez pris peur, Jason ? Qu'est-ce qui peut bien être assez monstrueux pour que ça mérite de tuer votre femme et votre enfant à naître ? Elle est vraiment enceinte, murmura Jason. Il n'avait pas eu l'intention de poser cette question, mais il attendit tout de même la réponse parce qu'il voulait l'entendre à nouveau, la ressentir à nouveau. C'était une douleur exquise. Comme si quelqu'un lui avait décollé la peau avec un couteau à désosser. Vous l'ignoriez vraiment? Depuis combien de temps? Quoi, elle avait l'air un peu mal fichue. J'ai cru qu'elle avait la grippe. Elle n'en a jamais rien dit. Didi semblait l'étudier. On ne peut pas savoir depuis combien de temps à partir d'un test de grossesse, monsieur Jones. Mais vous pouvez être sûr que nous pratiquerons des analyses génétiques. Je serais curieuse de savoir si vous êtes le père. Il ne répondit pas. Il en fut incapable, parce qu'il faisait pour la première fois un autre rapprochement. L'informaticien, commença-t-il. Didi le regarda. Il est venu au collège? C'est ce qu'il dit. Pendant les heures de classe? Non, pendant les matchs de basket du jeudi soir. Et le regard de Didi lui indiqua qu'elle pensait la même chose que lui. Il n'avait cessé de prétendre que Sandra était trop occupée avec lui pour avoir un amant, mais elle avait quand même trouvé moyen de donner des rendez-vous, le jeudi soir, tous les jeudis soirs. Sa femme allait au collège pour rencontrer un autre homme. « Comment s'appelle-t-il ? » demanda Jason d'une voix qui était montée d'un cran dans les aigus. Encore un signe de faiblesse sur lequel il ne pouvait pas revenir. Didi refusa de répondre. Alors l'idée qui lui trotterait dans la tête toute la journée lui traversa l'esprit. Quel genre de voiture conduit l'informaticien? Une voiture de fonction? Donnez-moi votre nom, Jason Jones, votre vrai nom. Vous avez discuté avec Aidan Brewster? Vous lui avez demandé ce qu'il a vu mercredi soir? Il faut que vous lui parliez de la voiture. Que vous lui demandiez plus de détails. Dites-nous ce que vous faisiez sur l'ordinateur, monsieur Jones, ce que vous cherchez désespérément à cacher. Mais rien, insista-t-il, envahi à présent par un sentiment d'anxiété, le sentiment d'être piégé, affolé. Il ne lui restait plus que quelques jours, peut-être même quelques heures. Il fallait qu'ils écoutent, qu'ils réfléchissent. Sa fille était en jeu. Écoutez, à vous entendre, un expert de l'investigation numérique a travaillé avec Sandra sur le disque dur. De toute évidence, il n'a rien trouvé. Sinon, vous ne seriez pas là à me tanner. Conclusion, je n'ai rien à cacher. Qu'est devenue votre vie secrète d'Avatar? C'est l'informaticien, tenta-t-il encore. Il faut que vous regardiez de ce côté-là. Peut-être que sa relation avec Sandra n'était pas d'ordre purement professionnel. Peut-être qu'il la voulait et que c'est lui qui a été pris de jalousie quand elle a refusé de quitter Ri. Quand elle a refusé de vous quitter, vous voulez dire. Je n'ai fait aucun mal à ma femme. Je n'aurais pas enlevé sa mère à Ri. Mais ce type de la police d'État, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ou le père de Sandra, Maxwell Black? Vous saviez qu'il vient d'obtenir une ordonnance ex parte qui lui accorde un droit de visite sur lui? En pratique, ce n'est pas pour participer aux recherches concernant sa fille que Max a fait tout ce chemin, c'est pour lancer une procédure concernant la garde de sa petite fille. Il ne pourrait pas le faire si Sandra était là. Il n'aurait aucune légitimité. Mais avec la disparition de Sandy, et comme je suis le principal suspect, vous ne trouvez pas que c'est sacrément commode pour lui? Peut-être même trop pour être une simple coïncidence? Didi ouvrit de grands yeux. « C'est ça, votre défense? C'est pas moi, c'est l'autre? Je croyais que vous aviez jeté votre dévolu sur le pervers du quartier. Je ne suis pas sûre que Sandra le connaissait. Je vois. Donc son propre père et l'informaticien qu'elle a recruté pour enquêter sur vos activités en ligne font des coupables beaucoup plus logiques. Sans oublier Ethan Hastings. » Il savait qu'il creusait sa propre tombe, mais c'était plus fort que lui. On a vu des enfants de 13 ans faire pire. Ah, oh, vraiment? Alors c'est qui, monsieur Jones? Aidan Brewster, Ethan Hastings, Wayne Reynolds, Maxwell Black? À moins que ce ne soit le Père Noël? Wayne Reynolds? Didi rougit en s'apercevant trop tard que le nom de l'informaticien lui avait échappé. Elle conclut sur un ton sec. Vous nous mentez, monsieur Jones. Vous nous mentez sur votre identité, vos activités sur Internet, votre vie tout entière. Et ensuite vous faites volte-face pour nous expliquer que vous aimez votre femme et que vous voulez seulement qu'elle revienne. Eh bien, si vous l'aimez vraiment à ce point, commencez par jouer franc jeu avec nous. Dites-nous ce qui lui est arrivé. Jason lui donna la seule réponse qu'il pouvait lui donner. Franchement, commandant, je n'en ai aucune idée.